Mesdames, Messieurs, merci de vous être rendus disponibles. On va pouvoir commencer ce dernier conseil municipal de l'année. Vous aviez sur table deux documents complémentaires, donc un qui sera examiné dans le cadre de l'ordre du jour. C'est donc une décision modificative numéro 2 sur le constat des dépréciations de créances et suite à une demande de la Trésorerie générale. Et puis, on aura en questions diverses une décision à prendre sur le pouvoir de police en termes de règlement local de publicité intercommunale de la métropole. En termes de présence, donc Fabrice Adam est absent et il donne son pouvoir à Claude Bruno. Claude Bougot qui vient de perdre son papa, je crois, c'est ça? Ce que je vous le dis maintenant, vous savez. Voilà. Donne procuration à Christine Gezins. Pierre Achard donne procuration à Antoine Di Paolo. Hugo Rodriguez Souza me donne procuration. Michel Cosset, qui est retenu sur une réunion du ciel, je crois, à Montbrison, va peut-être nous rejoindre d'ailleurs, donne sa procuration à Jacques Pellegrin. Et Lise Lafont donne sa procuration à Mireille Papin. Et on va pouvoir commencer l'ordre du jour. Donc, si vous en êtes d'accord, on demandera bien évidemment à Mireille d'assurer le secrétariat de cette réunion. Elle est d'accord, et nous le sommes aussi, donc c'est formidable. Premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation donc du conseil municipal, le dernier en date, qui était le 7 novembre 2022. Avez-vous des observations ou des remarques à faire par rapport à ce conseil? Donc on va pouvoir voter le procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il est adopté à l'unanimité. Avant d'attaquer l'ordre du jour, je voudrais faire un point d'information. Donc, mais je le mets dans l'ordre du jour volontairement. Vous savez que jeudi dernier s'est tenu un conseil métropolitain au musée d'art moderne et contemporain. Je vous passe les détails de ce conseil qui a commencé à 14h30 et on a commencé à examiner l'ordre du jour à près 17h. 17h30, oui, puisqu'il y a une pause. Donc, Gaël Perdriau est venu expliquer sa situation et a déclaré officiellement qu'il se mettait en retrait total de ses fonctions. Je ne reviendrai pas sur cette situation. Nombreux élus, nombreux maires sont intervenus. Sachant que la notion de retrait, comme je l'ai dit ce jour-là, n'a aucune valeur juridique. Donc, on a procédé à un vote qui avait pour but de lui demander de démissionner. Ce vote a été donc validé à la majorité. Alors, ce n'est pas encore mon calcul, mais c'est 66% des suffrages exprimés. Donc, voilà, c'est un vote qui lui demande de prendre ses responsabilités et de démissionner, sachant que la démission est un acte volontaire et personnel et qu'à ce jour, personne ne peut lui imposer de démissionner. Voilà. Donc on a un bureau métropolitain jeudi soir, donc on va voir exactement ce qu'il en est. Ben, il ne sera pas là hein, de toute façon, mais on verra comment le bureau se positionne par rapport à cette réalité. Voilà, je tenais à vous le signaler parce que c'est quand même très important. Ça risque d'entraîner quand même quelques difficultés dans le suivi de nos dossiers avec la métropole, mais surtout... On a eu quelques échos dans les dossiers que l'on pourrait être amené à suivre avec la région. Et c'est loin d'être fini. Donc, premier élément donc, de l'ordre du jour, le point 1, c'est l'état des décisions du maire. Donc, ce sont les dernières de l'année. Hein, donc, c'est tous les marchés qu'on a pu passer. Donc, au niveau des services. Des questions par rapport à ces éléments d'information? Pas d'interrogation, il n'y a pas de poste particulièrement à commenter. Il y en avait un, c'était sur la médiathèque. C'est un... Alors attendez, je le retrouve. Tac, tac, tac. 31 octobre, c'est l'étude de réaménagement des espaces de médiathèque André Chaise. Donc, c'est une agence donc, qu'on a retenue. C'était prévu au budget. À partir de là, et des recommandations, on va réaménager la médiathèque et on pourra avoir une subvention correspondant à moitié des coûts. Donc, c'est pour ça qu'on a engagé ce processus, pour optimiser ensuite les subventions qu'on pourrait obtenir. Point 2, et je vais passer la parole à Antoine. Oui. Pour la signature d'une convention de prise en charge des animaux errants trouvés sur le territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarret avec le chenil des pins.
Donc, entre les sous-signés, le chenil des pins situé au Chambon-Feugerolles, 80 chemin du Bief, d'une part, et la commune de Saint-Priest-en-Jarret située 8 rue Claudius-Cuotier à Saint-Priest-en-Jarret, il a été convenu ce qui suit. Alors, je vais lire simplement quelques articles, les principaux. Article 1. La ville de Saint-Priest-en-Jarret ne disposant pas de fourrière animale confie au chenil des pins les missions suivantes. Sur demande express des services municipaux ou de la police nationale ou des pompiers. La capture, quand celle-ci est possible, des chiens et des chats divagants sur la commune. Le transport de la mairie ou du lieu de capture de l'animal au chenil et du chenil à la SPA de Saint-Étienne ou autre association. L'hébergement des chiens et des chats errants trouvés sur la commune. Ensuite, je passe à l'article 6. Le paiement des prestations fournies sera réglé par la ville de Saint-Priest-en-Jarret et se fera sur présentation d'une facture détaillée selon les tarifs suivants. Capture de chiens divagants, forfait 50 euros, incluant la prise en charge et le déplacement. Véhicule et matériel de capture compris dans le forfait. Capture de chats, forfait 30 euros. Hébergement de chiens, 11 euros la nuit, nourriture comprise. Hébergement de chats, 10 euros. Transport ou déplacement non suivi de prise en charge du chien ou du chat, 10 euros l'unité. Article 10. La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023. Elle est prévue pour une durée d'un an. Elle se renouvellera par reconduction express, sauf dénonciation par l'une des parties. Article 11. Le chenil des pins intervient aux heures d'ouverture, 8h, 12h, 14h, 17h. Le chenil est fermé le dimanche et les jours fériés. Il n'y a pas d'intervention le samedi après-midi. Article 12. Une adhésion de 200 euros sera versée au 1er janvier de chaque année pour moins de 40 animaux. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Donc c'est une reconduction de convention annuelle. Alors on ne peut pas porter un jugement sur la qualité de cette convention. Ce qui nous gêne, nous, c'est en fait les séquences d'intervention. Ce sont les jours de la semaine. Donc du lundi au samedi midi, on va dire, 8h, 12h, 14h, 17h. Donc le samedi, c'est 8h, 12h. Donc ça nous pose des problèmes les jours fériés, en particulier les dimanches et la nuit. On peut avoir des animaux qui divaguent, mais de toute façon, on n'a pas d'autres options en ce moment en termes de partenariat.
Oui, moi je voulais poser une question, hein, Claude Bruno. On dissocie vraiment la capture et le transport. Si on récupère le chien et qu'ils n'ont qu'à le prendre et l'emmener, il n'y a pas de capture là, c'est que du transport.
Oui, après c'est une typologie de prestation, on peut toujours dire on l'a retenu mais il n'est pas capturé, ça dépend de ce qu'il entend par la capture, c'est le fait de lui mettre une laisse, c'est de le faire monter dans une cage, c'est de le mettre dans la voiture. Bon, de toute façon, la convention est conçue comme ça. C'est... Bon, c'est un protocole qui est préétabli. De toute façon, c'est comme ça depuis des années. On ne va pas remettre en cause. C'est sûr que si c'est nous qui le capturons, ou la police, il est capturé. Mais après, la prise en charge qui s'assimile à une capture, mettre une muselière, l'attacher, etc., c'est eux qui le font. Donc, ils considèrent que c'est ça, la capture. Puis après, il y a le déplacement. On fait tourner le véhicule et on l'emmène jusqu'au chenil. OK. D. Des questions par rapport à ça, mais c'est simplement une reconduction comme on vous en présente et comme on va vous en représenter de nombreuses. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, la convention est reconduite à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 3, c'est l'école municipale des arts. Je vais passer la parole à Christine Gezins.
Oui, bonsoir. Donc, nous vous proposons de renouveler la convention de partenariat financier avec la ville de Lettra. Cette convention permet de prioriser les élèves de Lettra lors de leur inscription à l'école municipale des arts. Nous recevons 9 000 euros de subvention en contrepartie. Cette année, nous avons 31 élèves qui suivent les cours à l'école municipale des arts. 31 élèves de Lettra. Voilà. Donc, je vais vous lire juste l'article 2 pour l'engagement des parties. La commune de Saint-Prié en Jarret s'engage à donner priorité aux résidents de Lettra dans le cadre des demandes d'inscription à l'école des arts extérieure à la commune de Saint-Prié en Jarret, et ce, dans la limite des places disponibles. La ville de Lettra s'engage à participer aux frais de fonctionnement et de gestion de l'école des arts à hauteur de 9 000 euros pour l'année 2021-2022. 2022-2023, pardon. C'est bien, il y en a qui suivent.
Des questions par rapport à cette convention? Ça fait comme la convention précédente, hein. C'est des renouvellements annuels qui arrivent maintenant à échéance et qu'on vous soumet. Des questions? Moi, je trouve que c'est bien, une trentaine d'élèves de l'E3, c'est bien.
Oui. C'est très bien.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, la convention est reconduite à l'unanimité. Le point 4 concerne les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail. La loi 2015-990 du 6 août 2015 a fixé le nouveau cadre législatif pour l'ouverture des commerces le dimanche. Auparavant, la législation permettait aux maires d'autoriser des dérogations jusqu'à 5 dimanches par an. Désormais, conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du Code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Par ailleurs, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, donc Saint-Étienne Métropole, à fiscalité propre, dont la commune est membre. Le conseil municipal est de même consulté pour avis. La législation maintient la consultation des organisations patronales et syndicales en application de l'article R3132-21 du Code du travail. Il est rappelé que la dérogation a un caractère collectif et doit ainsi bénéficier à l'ensemble des commerçants ou commerces de détail pratiquant la même activité dans la commune. Il est donc possible de prendre des arrêtés différents selon les catégories d'établissements. Donc je vous précise que tous les commerces concernés ont été consultés, ainsi que les organisations syndicales et professionnelles et Saint-Étienne Métropole. Compte tenu des demandes exprimées, il est proposé au conseil municipal de donner son avis sur la programmation 2023 suivante pour la branche automobile. Donc 5 dimanches, le 15 janvier, le 12 mars, le 11 juin, le 17 septembre et le 15 octobre. Pour la branche alimentation, les 10, 17, 24 et 31 décembre. Pour la branche bazar décoration non alimentaire, les 8, 15 et 22 janvier, le 16 avril, le 25 juin, le 2 juillet, le 27 août, le 3 septembre, le 26 novembre, les 3, 10 et 17 décembre. Avez-vous des questions par rapport à ça? Il y en a 11. Donc on n'a pas dépassé les 12. Des questions par rapport à ça? C'est pas nous qui avons créé ces dates, c'est suite aux branches professionnelles qui nous ont sollicité, donc ça a été validé par la métropole et les organisations syndicales et patronales. Qui est contre cette validation? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc nous validons ces autorisations d'ouverture le dimanche à l'unanimité et je vous en remercie. Le point 5 concerne l'acquisition par Epora du tènement Carpentras. Donc l'objet, c'est l'approbation de l'acquisition par l'Epora du tènement immobilier cadastré section AH numéro 161 appartenant à Madame Carpentras Thérèse, née Dominique, et rétrocession à la commune. Je vous rappelle que la commune s'est engagée dans la réalisation d'une démarche de requalification de l'habitat et de commerce dans le centre-bourg. Ainsi, la commune a sollicité l'Epora pour l'accompagner sur les opportunités d'aménagement liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre concerné par le projet. L'Epora est arrivé à un accord avec les propriétaires en vue de l'acquisition pour 180 000 euros du bien immobilier situé place Jean-Baptiste Père à Saint-Prix-en-Jarret, cadastré AH161 pour une contenance de 135 mètres carrés. Je vous rappelle que ce bien sera rétrocédé à la commune ultérieurement, conformément aux termes de la convention signée en date du 6 septembre 2021. Il vous est donc demandé d'approuver l'acquisition par Epora du tènement immobilier suspensionné au prix de 180 000 euros et la rétrocession de l'immeuble objet de la présente délibération par l'Epora à la commune aux conditions prévues dans la convention du 6 septembre 2021. Donc ce chiffre découle dans un premier temps de l'estimation qu'on en fait les domaines. Il a été proposé à la propriétaire qui, après négociation, l'a accepté. Donc l'étape suivante, c'est que nous validions l'acquisition à ce prix-là. Ensuite, on validera la vente, la cession, si vous voulez, dans un deuxième temps, par acte notarié. Avec cette opération, l'Epora, et donc nous à terme, devenons propriétaires de l'intégralité des lots constituant l'îlot 2. En ce qui concerne l'îlot 3, les négociations sont toujours en cours. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir valider l'acquisition par l'Epora de ce lot au prix de 180 000 euros et la rétrocession à la commune ultérieurement. Des questions par rapport à ça? On parle bien du foncier, de la partie bâtie. Le bail commercial. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide l'acquisition pour 180 000 euros du tènement de Madame Carpentras. Le point 6 suivant va être retiré de l'ordre du jour. C'était, dans la même logique, la validation de l'unité d'éviction commerciale du bar-tabac. Alors pourquoi on a décidé de retirer cette proposition? C'est que les négociations sont d'abord toujours en cours et qu'on a eu un certain nombre de clarifications sur le devenir de l'activité bar, de l'activité tabac, de l'activité française des jeux. La française des jeux, c'est une attribution nominative. Donc, monsieur et madame Dos Santos s'en vont, il n'y a plus l'activité française des jeux, mais n'importe qui reprendrait l'activité pourrait le demander. Le bar, c'est une activité, c'est une licence qui peut être ou gardée par monsieur et madame Dos Santos quand ils partent et la revendre, ou on peut l'intégrer dans l'indemnité d'éviction et la garder nous. Enfin, l'activité tabac est celle qui nous pose le plus de problèmes. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement plus parce que Frédéric a eu de nombreux échanges avec le service et la direction des douanes. C'est quasiment inenvisageable qu'on puisse reprendre l'activité tabac à terme. C'est compliqué. On est en milieu urbain, il y a déjà un tabac sur la commune. Et puis, normalement, une activité de tabac ne peut être suspendue que pendant un an, éventuellement reconductible s'il y a la certitude d'avoir une reprise d'activité dans un local dédié. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'apporter toutes ces garanties. Et encore faudrait-il trouver la personne physique, puisque nous, mairie, on ne peut pas le faire. On est en milieu urbain, on serait à la campagne, la question ne se poserait même pas, ça serait tout à fait possible. Mais on est une personne physique qui reprendrait le bail et qui s'engagerait à se réinstaller à terme dans un nouvel immeuble. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait irréaliste. Donc voilà, on en est là sur la procédure administrative pour le tabac. Ce n'est pas figé, mais ce sont les derniers éléments qu'on a eus vendredi soir de la part des douanes. si on s'est réunis tout à l'heure avec les adjoints, c'était justement pour qu'on se cale bien sur cette démarche. On a toujours dit qu'on essaierait de maintenir l'activité tabac dans la mesure du possible. Là, aujourd'hui, la réglementation fait que ça va être très, très, très difficile. Si, sauf si quelqu'un, à terme, qui a déjà une activité tabac, vient s'installer sur la commune à cet endroit. C'est autre chose. Mais nous, mairie, on ne peut pas être acteur de cette situation. Donc, on vous demande de bien vouloir accepter de suspendre ce point 6. On va attendre que les négociations sur l'indemnité d'éviction entre Epora et M. Ando Santos aboutissent. Voilà. D'autres questions par rapport à ça ?
Excuse-moi, c'est juste que j'ai pas compris. Du coup, on recule parce que la négociation n'est pas terminée. Mais là, il y avait un prix d'affiché, ça veut dire que ça a rechangé entre-temps, c'est ça ?
Non, alors, c'est un bail commercial. Donc, soit il y a une reprise du bail. Ça, ce n'était pas l'option retenue par Epora. Mais Epora n'a pas inventé un chiffre. C'est les domaines qui ont fait une estimation de l'indemnité d'éviction. C'est la base sur laquelle ça se négocie. Si M. Mendoza Santos apporte des éléments complémentaires pour dire, ben non, on voudrait un peu plus pour telle et telle raison, et il y en a des raisons hein, d'ailleurs, il pourra peut les intégrer, se tourner vers les domaines, disant est-ce qu'on peut actualiser, etc. Donc c'est pour ça que ça serait un peu prématuré de dire on rachète, on verse une indemnité d'éviction à ce montant-là, sachant que ça ne sera sans doute pas celle-ci. Restera aussi le problème de savoir si on reprend la licence 4 ou pas, parce que s'il la garde, il peut la revendre, mais dans ce cas-là, on baisse l'indemnité d'éviction. S'il nous la rétrocède, on augmente l'indemnité d'éviction. Ça, c'est un autre choix. Et donc, après, c'était ou une éviction ou une reprise d'activité. On a cherché toutes les solutions. On est sur une logique d'éviction parce que la reprise d'activité, de toute façon, on a demandé aussi à Epora de se tourner vers les domaines pour faire des estimations, mais les douanes nous disent, de toute façon, vous n'aurez pas l'autorisation, vous, collectivité territoriale, mairie, de reprendre le bail commercial. Les conditions ne sont pas remplies. Donc on va forcément vers une indemnité d'éviction qui reste encore à ajuster. Donc on vous la présentera sans doute au conseil municipal du mois de février. Simplement un problème de timing. Mais de toute façon, on est propriétaire de l'ensemble des lots. Et si monsieur... Alors, si, je mets entre parenthèses, ce ne sera pas verbalisé. Si monsieur et madame Dos Santos ne veulent pas partir, eh bien on fera tomber les murs tout autour d'eux et ils resteront dans leur bail commercial. Non, mais bon... De toute façon, ils sont dans cette logique, ils le savent bien, donc c'est une négociation qui est en cours, mais qui aboutira. Voilà. On est d'accord donc pour la question 6. Et ben maintenant, je vais passer la parole à Michel Bisaccia, qui va nous parler de comptabilité de gros sous.
Bonsoir. Là, on voit toujours au conseil municipal du mois de décembre venir le même type de délibération. Puisqu'effectivement, vous savez que le budget primitif se vote au mois de mars et que pour engager et pour payer des travaux, il faut que les sommes soient autorisées par le conseil municipal. Or, comme le conseil n'a lieu qu'au mois de mars, il nous est autorisé à effectivement engager des dépenses avant. Dans une certaine limite, de façon à ce que nous puissions continuer à fonctionner, à faire des travaux, à faire des acquisitions sur le premier trimestre de l'année qui suit et de pouvoir régler les factures. Donc effectivement, conformément à l'article 116.12.1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que jusqu'à adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, hein, puisqu'on sait la date pour laquelle on a obligation d'avoir un budget voté, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a dépensé en investissement, parce qu'on avait inscrit cette année au budget d'investissement et on calcule un quart, non compris, bien entendu, les crédits afférents au remboursement de la dette. Ça ne compte pas, c'est effectivement que les dépenses d'équipement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, c'est-à-dire que cette somme qu'on prend maintenant, on va les remettre, bien entendu, au budget 2023. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Donc, sur 2022, on avait un montant total de dépenses d'investissement d'équipement de 1 700 064,86 euros. Ce qui fait que si on calcule 25% de cette somme, on peut engager jusqu'à 425 016,21 €. Donc vous verrez qu'on n'arrive pas à cette somme-là. Donc on fait effectivement à ce moment-là, à partir de là, le tour des services et pour leur demander leurs dépenses urgentes sur 2023, sur le début de 2023. Donc on a plusieurs lignes. On est obligé de remettre de l'argent sur l'étude extension et réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry pour 50 000 €. Les logiciels, parce que c'est pareil, vous savez, les logiciels, il y a des renouvellements de licences et puis il peut y avoir des mises à jour. Et là, c'est pareil, on peut pas attendre le mois d'avril pour engager ces sommes-là. Donc, on part pour 11 500 €. Alors, toutes les sommes que je vous donne, ce sont des sommes de prévision. Ça ne veut pas dire qu'au 31 mars, on aura systématiquement dépensé cet argent-là. Mais ça nous fait, vous verrez par exemple, qu'il y a l'électroménager qui est remplacement en cas de panne. Il nous faut de l'argent au cas où il y a quelque chose qui se passe mal. Donc après, on va avoir besoin d'argent sur le mobilier urbain, la signalétique, sur les matériels espaces verts et voiries, sur le matériel informatique, les terminaux et les lecteurs clés USB, sur du mobilier fêtes et cérémonies, sur du mobilier au jardin d'enfants Pégase, sur des chaufferies, là aussi c'est surtout en cas de panne, sur l'électroménager remplacement en cas de panne, des radiateurs à bain d'huile EMA, parce que bon, on a découvert après rénovation qu'on avait quelques problèmes de chauffage, et sur des travaux d'extension, réhabilitation groupe scolaire Jules Ferry, vous savez qui est le gros programme qui débutera en 2023. Donc après, on répartit ces sommes-là en fonction des comptes. Hein. Donc on a 50 000 sur les frais d'études, 11 500 sur les licences. On a 8 000 € sur les installations de voirie. On a 10 000 € sur tout ce qui est le matériel et outillage de voirie. 6 356,80 € sur ce qui est le matériel de bureau et l'informatique. 3 000 sur le mobilier. 7 300 sur les divers qu'on voit là. Et sur le compte 2313, les 100 000 € qui sont effectivement les premières sommes dont on peut avoir besoin sur les travaux de Jules Ferry. Donc on arrive à un total de 196 156,80 €. Donc vous voyez, on est loin des 425 000 qui nous étaient autorisés. Voilà. Et ça ne veut pas dire que d'ici le mois de mars, on aura dépensé ces sommes-là. Mais ce sont des prêts. Alors il y en a, on sait qu'on va les dépenser, parce qu'effectivement, on sait que ça sera fait avant le mois de mars. Et d'autres, c'est plus de la sécurité en cas de panne ou de casse. Voilà.
Alors il y a donc, vous avez compris, hein, il y a 50 000, c'est les honoraires de l'architecte. Il y a 100 000 €, c'est les premiers travaux. Sur Jules Ferry, il y a deux éléments, alors vous n'avez pas le détail, mais qui me semblent importants pour la police municipale. En particulier, donc, des lecteurs de clés USB, il y en a pour 1 296 €. Pourquoi ? Parce que, à partir du 1er janvier, actuellement, nos policiers, quand ils interpellaient un véhicule, demandaient au PC, la centrale, le CAR, peu importe, de la police nationale, d'identifier le véhicule et son conducteur. Ça, c'est fini. Ça veut dire qu'ils auront une clé USB cryptée personnalisée. Il leur appartiendra, eux-mêmes, d'identifier le propriétaire du véhicule, savoir s'il est en règle, si c'est un véhicule qui n'a pas été volé, etc. Donc, il faut qu'on s'équipe. Donc, on a rencontré la semaine dernière deux commissaires de la sécurité publique et de la police de voirie, en fait, si vous voulez. Sur ces thèmes-là en particulier, on a parlé de la délinquance à Saint-Prié, bien sûr, parce que ça devient quand même très difficile. Jusqu'à maintenant, il y avait eu quelques soucis. Par exemple, ils n'arrivaient pas à avoir le car, donc on ne va pas immobiliser un automobiliste tant qu'on ne sait pas s'il est en règle, etc. Donc c'était assez difficile. Donc ça devrait quand même leur permettre d'être plus réactifs à une condition, c'est qu'ils soient équipés sur place pour contrôler. Parce que s'il faut dire « attendez, vous restez là », on remonte à l'ordinateur qui est au poste de police, on met la clé pour voir si vous êtes en règle et on revient vous le dire, ça poserait quand même quelques problèmes. Donc là, il va falloir que, en termes d'autorisation, le ministère de l'Intérieur avance très vite. Il y a un deuxième élément qui nous pose problème, ça va être la disparition, vous le savez peut-être, des cartes vertes et des vignettes d'assurance à partir du début de l'année. Ça veut dire que ça sera très difficile d'identifier un véhicule qui n'est pas assuré. Et vous-même ou nous-mêmes, quand on aura un accrochage, on ne mettra plus notre police, etc. On mettra simplement le numéro d'immatriculation de notre véhicule et du véhicule adverse. Donc je pense que là, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même que nos policiers, mais ça, c'est pas acquis, par contre. Donc on a fait remonter un dossier très complet à Quentin Bataillon, notre député, pour qu'il intervienne auprès du ministre de l'Intérieur. Parce que si on ne peut pas accéder à la situation d'un véhicule à partir de la plaque d'immatriculation, comme je lui ai dit, c'est même plus la peine de faire des contrôles routiers. Voilà. Donc voilà. Donc je vous signalais simplement qu'on a bien sûr prévu de les équiper du matériel qui leur permettra d'accéder à un certain nombre d'informations en espérant que ce soit suffisant.
Corinne Bourg, du coup, pourquoi c'est en classe 2, ça, des lecteurs USB, c'est cher? Pourquoi c'est en classe 2, c'est cher, ces lecteurs?
Oui, alors, tu raisonnes petit matériel, etc. Dans les collectivités territoriales, y compris un petit matériel à 70 euros, on va l'amortir. Donc, ça devient une immobilisation. Voilà, c'est pour ça. Le petit matériel, on sait très bien qu'en dessous d'un certain montant, on peut le mettre en fonctionnement. Là, c'est de l'investissement. D'autres questions par rapport à ça? Donc, c'est dans la limite de 25% de ce qu'on a dépensé en investissement l'année précédente. Et donc là, on en est bien en dessous pour pouvoir continuer à, si vous voulez, à acheter en cas de besoin. Donc, qui est contre cette délibération? En fait, c'est un engagement, si vous voulez, sur 2023 des investissements les plus urgents tels qu'ils pourraient apparaître. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous validons cette partie du budget d'investissement pour 2023. Je vous en remercie. Point suivant. Alors, le point suivant, c'est toujours toi. C'est toujours moi.
Alors, le point suivant, c'est l'inscription de biens meubles en section d'investissement. Donc, ça répond un peu à ta question, Corinne. Effectivement, normalement, les acquisitions de biens de petite valeur ne doivent pas être inscrits en investissement. Avant, alors je vous passe tous les seuils qui avaient été portés, hein, c'était 4 000 euros en 93. Quand on est passé à l'euro, ça a été fixé à 500 euros. Normalement, tout bien qui est une valeur unitaire inférieure à 500 euros TTC doit être passé en fonctionnement et non pas en investissement. Par contre, ces biens meubles qui ne sont pas considérés comme des valeurs immobilisées par nature, qui sont donc d'un montant inférieur à 500 euros, peuvent être inscrits en section d'investissement sur délibération expresse de l'Assemblée et sous réserve qu'ils revêtent un caractère durabilité. C'est sûr que si on achète des stylos ou des cahiers, on ne va pas les mettre en investissement. Alors, l'avantage de faire ça, c'est uniquement de pouvoir récupérer la TVA. Que sur tout ce qui est fonctionnement, on ne récupère pas la TVA, sur l'investissement, on la récupère. Voilà, donc c'est peu de sommes, mais c'est toujours ça de récupérer. Donc les services ont procédé à l'acquisition des biens suivants que je vous propose d'inscrire en section d'investissement. Donc une mini DAV 85 CTM, 95 CTM, ne me demandez pas ce que c'est, j'ai aucune idée de ce qu'est une mini DAV. Pour 397,37 euros TTC l'unité. Un déboucheur Proval à 174,24 €, une valise diagnostique véhicule, donc ça c'est pour l'électronique, 338,40 € l'unité, et trois tentes de camping au centre de loisirs à 39,99 € TTC l'unité. Donc ces biens étant considérés effectivement comme des biens de faible valeur, il n'y a pas d'amortissement, ils seront sortis de l'inventaire l'année d'après. Voilà, c'est juste effectivement la possibilité de récupérer la TVA sur ces biens-là.
Des questions? Donc c'est une mécanique strictement comptable. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on valide cette décision. Le point suivant, c'est encore Michel Bisaccia.
L'autorisation d'encaisser les recettes. Alors attendez, elle était derrière. Voilà. J'ai perdu ma deuxième poche. Là, voilà. Alors, effectivement, pour la bonne exécution du budget 2022 et la conformité des opérations comptables, il y a lieu d'approuver l'encaissement des remboursements des sinistres 6 juin. Alors, attendez, je les ai perdus. Ils sont où, mes remboursements des sinistres? Ah ben, j'ai pas dû avoir la bonne page. Voilà, merci. Alors, en fait, c'est une délibération obligatoire. Chaque fois qu'on a des encaissements d'assurance, on est obligé des remboursements d'assurance sur des sinistres, on est obligé de les approuver pour pouvoir les encaisser. Alors là, c'est trois sommes qui ont été versées de 190,15 € par deux familles de la commune pour des bêtises qu'ont fait leurs enfants sur l'école Jean Massé un soir d'un peu trop arrosé. Voilà. Donc les parents se sont engagés à rembourser les frais. Et donc, effectivement, on a touché la somme de 570,45 € qui concernait... En fait, ils ont cassé une vitre, hein, je crois, pour entrer. C'était donc le remboursement du vitrage qui a été fait par les familles. Voilà. Et en contrepartie, on s'est engagé à pas faire de poursuite parce que c'était une bêtise.
Alors, il y avait quand même eu un dépôt de plainte. Hein. Oui. Par contre, les enfants étaient... On les a rencontrés avec Frédéric Billon. Dès le lundi, ils se sont engagés à rembourser. Ça a été fait dans la semaine. Donc, on en a informé le procureur qui a décidé de ne pas poursuivre. Des questions autres ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on autorise la mairie à encaisser les recettes. Très bien. Est-ce que celle-ci, on la fait maintenant ? Alors, je vous propose de faire maintenant, puisqu'on est toujours dans le domaine comptable et budgétaire, la décision modificative, si vous en êtes d'accord, qu'on a trouvée sur table, qu'on vous a remis sur table, et qui concerne le constat des dépréciations de créances. Alors pourquoi vous ne l'avez pas eu plus tôt ? Parce que c'est une demande qu'on a reçue du Trésor public jeudi, donc on a décidé de l'intégrer à ce conseil.
Voilà.
Il y a des oppositions pour qu'on l'intègre au conseil municipal de ce jour ? Très bien, donc on peut y aller.
Merci. Oui, effectivement, c'est le constat de dépréciation de créances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on passe assez souvent au Conseil des admissions en non-valeur pour des créances. Alors effectivement, on s'était trouvé une année en difficulté parce qu'on s'était retrouvé avec beaucoup d'admissions en non-valeur et ça nous avait fait une somme. Ce qui fait que maintenant, effectivement, on est obligé, quand on a l'impression que les créances sont douteuses, c'est-à-dire qu'on va arriver de toute façon à une admission en non-valeur, à provisionner, nous, la commune, pour être sûr justement de ne pas être mis en défaut et en difficulté par rapport à ça. Donc, monsieur le maire expose, l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit la constitution de provisions pour créances douteuses en vertu du principe comptable de prudence. La notion de créances douteuses recouvre des restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le montant de ces créances pour la commune de Saint-Priest s'élève au 31 décembre 2022 à 4 843,91 €. La constitution de provision comptable est une dépense obligatoire et son champ d'application est précisé par l'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales. Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités territoriales rend nécessaires les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'Assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, c'est-à-dire que ça ne dédouane pas le comptable de tout ce qu'il doit faire comme poursuite, hein, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité, estimé à partir d'informations communiquées par le comptable. D'un point de vue pratique, donc le comptable et l'ordonnateur, c'est-à-dire nous, ont échangé leurs informations sur les chances de recouvrement des créances. L'inscription des crédits budgétaires, puis les écritures de dotation aux provisions, vous sont donc proposées après concertation et accord. Dès lors qu'il existe pour certaines créances des indices de difficulté de recouvrement, compte tenu notamment de la situation financière du débiteur ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse et doit faire l'objet d'une provision. Le mécanisme comptable de provision permet d'appréhender cette incertitude en fonction de la nature et de l'intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses ou dépréciations repose sur des écritures budgétaires, sur option, par utilisation en dépenses du compte 68-17, dotation aux provisions, dépréciation des articles circulants, et 49-12, provision pour dépréciation des comptes de redevables budgétaires. Donc on vous demande d'ajuster les prévisions budgétaires de l'année 2022 pour permettre d'établir les écritures de constat de dépréciation des créances qui ont été proposées par le comptable public le 10 décembre 2022 comme suit. Et donc vous voyez que c'est une dotation de 4 844 € qui correspond effectivement à ce qui nous semble difficile à recouvrer. Donc on les retrouve effectivement dans les deux sections, en dépenses et en recettes, pour la même somme, 4 844 €. Voilà. Donc ça, je pense que ça existe depuis pas mal de temps, mais que les percepteurs avant ne s'agit. Alors, On vient encore de changer de receveur municipal. Est-ce que celui-ci a décidé de mettre ça en place? C'est certainement possible. Mais c'est loin d'être... Enfin, pour nous, c'est, enfin, pour moi, c'est intelligent parce qu'effectivement, ça nous permet de prévoir en amont ce qu'on pourra avoir à dépenser. Alors, si les créances sont recouvertes quand même, tant mieux. Si jamais, mais on sait très bien, par exemple, que quand c'est une société qui fait faillite, les loyers ou les choses comme ça sont pas des dépenses prioritaires. Donc, on sait que s'il y a plus d'actifs, ben il y a plus d'actifs. Hein. Donc, on n'a aucune raison de recouvrer nos loyers. Voilà.
Ça permet aussi, si vous voulez, un point de vue comptable, de rattacher à l'exercice constatation de ces créances douteuses. Avant, on attendait que ça se produise et puis on avait sur plusieurs années des créances irrécouvrables, parfois avec des montants importants. Là, on essaye de les rattacher à l'exercice. C'est provisionné sous forme de dotation en provision. Ça évoluera dans le temps. Si c'est confirmé, bon, on aura constaté la charge. Et puis si on recouvre, eh bien, on diminuera d'autant la provision. Des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre cet ajustement comptable? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est validé à l'unanimité. On va parler maintenant des tarifs communaux. Alors avant d'en parler, on va réfléchir à une formule. Je ne sais pas comment on la mettra en forme, on verra. Ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est qu'on ait une actualisation de nos tarifs, tous secteurs confondus, à la même date. Parce qu'on en a qui s'actualisent au 1er septembre, au 1er janvier, parfois en cours d'année. Donc ce qui serait bien dans nos réflexions, on verra comment on peut le mettre en place, c'est qu'on ait à une date donnée l'actualisation de l'ensemble de nos barèmes. Pourquoi je vous dis ça? Oui.
La seule difficulté, c'est qu'effectivement, on a des budgets qui sont des budgets annuels et puis des budgets qui fonctionnent comme des budgets scolaires, donc sur des années scolaires. C'est pour ça qu'il y a souvent deux périodes.
Mais après, on peut très bien dire qu'effectivement, que le tarif, par exemple, de la cantine, du périscolaire, on le revalorise au 1er janvier et pas au 1er septembre. C'est un choix. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le document que vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été actualisés courant 2022. Donc, on ne va pas vous les proposer aujourd'hui à une actualisation. Donc, je vous propose donc de procéder à l'actualisation des tarifs communaux à compter du 1er janvier 2023. En ce qui concerne la cantine et l'accueil périscolaire, le barème qui vous est proposé est inchangé puisqu'on l'a déjà actualisé au 1er septembre 2022. C'est également le cas pour le périscolaire, pour les tarifs du cimetière. Donc, on vous propose de ne pas le changer pour 2023, parce que là aussi, il y a des problématiques par rapport au prix des concessions, etc. Donc, inchangé pour 2023. Je vous fais une présentation globale, après on pourra revenir sur les thématiques. Pour la médiathèque André Chaise, ça a été... comment? C'est augmenté cette année. Donc, sur la base du tarif normal, donc pour la commune, 12 euros d'adhésion, pour les extérieurs, 22 euros. Puis après, on s'est décliné, si vous voulez, pour deuxième adulte de plus de 14 ans, étudiant, demandeur d'emploi, 7 et 11 euros. Moins de 14 ans, 1 euro et 5 euros. Les extérieurs, enseignants, collectivités, 25 euros. Personnel communal, on a décidé de revenir à la gratuité parce qu'on était sur des sommes infimes qui n'étaient en fait jamais recouvrées. Et puis, donc, toute une tarification pour les retards. 2 euros pour un lot document en retard, 15 euros pour une détérioration, 20 euros pour une paire de DVD ou un livre DVD, 40 euros pour le coffret et 130 euros pour la liseuse. Est-ce que, Christine, tu veux apporter des précisions sur cette actualisation qui est, somme doute, assez minime?
On a augmenté d'un euro pour le tarif adulte et pour les extérieurs, on a augmenté de 2 euros pour le tarif adulte. Après, nous avons augmenté pour un euro pour le deuxième adulte de plus de 14 ans, enfin, quand il y a un deuxième adulte dans la famille. On a augmenté 3 euros, ce qui est paraît excessif. C'est pour les enseignants à l'extérieur de la commune. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'enseignants qui viennent de la terrasse, la tour ou l'Etra, qui viennent emprunter beaucoup de livres. Quoi. Donc, et en général, ces enseignants se font rembourser par les écoles. Donc, on a augmenté, on est passé de 22 à 25. Enfin, c'est pas la ruine non plus. Voilà.
D'autres questions? par rapport à la culture. Donc l'école municipale des arts, bon, les tarifs ont été fixés en juillet 2022 et on les actualisera donc là aussi en juillet 2023 pour la rentrée de septembre 2023, sauf si d'ici là, on se cale sur un 1er janvier, on verra. Après, ça peut être une stratégie. Après, bon, voilà. Le pôle enfant-jeunesse, donc les tarifs qui vous sont proposés sont inchangés. On les avait validés le 14 avril 2022. Pareil pour la ludothèque. Alors là où on a des changements, c'est sur les deux derniers documents. Tarif voirie. Redevance d'occupation de la voie publique pour du matériel roulant, donc par exemple des camions de déménagement. On vous propose un droit forfaitaire de 20 euros par jour d'occupation. Avant, c'était un droit forfaitaire de 40 euros point barre. Que le camion stationne une journée ou une semaine, c'était 40 euros. Ben là, on vous propose de se caler le plus près de la réalité pour inciter aussi ces, je dirais, ces entreprises à occuper le domaine public le moins longtemps possible. Donc, on vous propose 20 euros par jour. On va le rajouter. On le rajoutera. C'est pour ça que je tenais à le préciser. Pour le matériel non roulant, ce sont essentiellement des échafaudages. On a longuement discuté, bon, parce que c'était pas évident. On avait des propositions, en particulier de la police municipale, qui étaient plus dans une logique de forfait. Et on s'est dit, ça va pénaliser les gens qui l'occupent pendant peu de jours. Et ça sera incitatif à l'occuper pendant longtemps si c'est un forfait global. Donc, on a simplement actualisé. Donc, jusqu'au 7e jour, on passerait à 7 euros au lieu de 5. Du 8e au 30e jour, à 5 euros au lieu de 3. Et à partir du 31e jour, à 4 euros au lieu de 2. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, de 2 à 4, ça fait 100%. Oui, et ce sont 2 euros. C'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup des pourcentages quand on est sur des montants très faibles. Pour l'occupation du domaine public par les bars et restaurants sous forme de terrasse, on était à 100 euros de forfait annuel. On avait longuement parlé l'an dernier. On vous propose de passer à 200 euros. Je crois qu'on doit en avoir 2 sur la commune. Voilà. Et après, la consommation électrique, bon, ça, on n'y touche pas. Donc, pour ces premières actualisations, est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. Rémi Mounier, j'ai une question concernant le matériel roulant, 20 euros par jour de droit forfaitaire. Il est dit que c'était pour se fixer un peu plus à la réalité, mais oui. Quelle est la réalité justement ?
Mais en fait, quand tu dis c'est 40 euros par jour forfaitaire, donc un camion qui vient déménager ou avec un monte-meuble, etc., bon, il arrive la veille, il repart le lendemain. Moi, j'ai vu au Bias, par exemple, ils sont arrivés le vendredi soir, ils ont laissé 4 camions tout le long de la rue des Bias pendant tout le week-end. Ils s'en fichent, ils payent un forfait. Là, s'ils payent à la journée, ils vont faire attention. C'est tout.
Et on sait ce qui se pratique dans les autres communes ?
Oh non, je peux te voir forcément ce qui se passait dans les autres communes, mais bon. Si on commence comme ça, on va avoir beaucoup de mal à s'ajuster. Hein.
Pour les droits de voirie, on n'est pas très cher hein, par rapport à ce qui se pratique à Saint-Étienne et voire à Lyon, où c'est 3 fois le prix. Quoi. Voilà.
Là, on est sur du matériel roulant, pas sur les échafaudages. C'est sûr que les propositions de la police municipale étaient beaucoup plus importantes en termes de coûts. Mais là aussi, parce qu'on veut éviter qu'il y ait quelqu'un qui monte un échafaudage, qui arrive, qui monte son échafaudage, qui aille faire un autre chantier, et puis pendant 30 jours, on a un trottoir occupé par des échafaudages. Donc l'idée, c'est aussi de les inciter, à partir du moment où ils mettent l'échafaudage, à assumer leurs prestations derrière. Moi, je sais pas, donc ça vous, c'est ouvert à la discussion. Hein.
Le matériel roulant, ça concernerait aussi le camion d'un artisan qui vient travailler chez quelqu'un qui garde son véhicule sur le parking.
Non, le matériel roulant, c'est l'occupation technique du domaine public. Mais un gars qui vient travailler, qui garde son camion, sa camionnette devant son client, c'est pas de l'occupation du domaine public. Par contre, un camion qui vient livrer du béton, qui s'installe avec, qui occupe toute la voie publique pendant une demi-journée sans avoir rien demandé, ben là, il sera incité peut-être à se dépêcher, quoi. Voilà. Je ne sais pas, ça vous interpelle cette notion de passer d'une tarification à la journée et à sortir du forfait ? C'est vraiment à la marge, hein, de toute façon, parce qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation tous les jours. Et simplement, à partir du moment où on n'est pas dans une logique de forfait, ça peut être incitatif pour l'entreprise à dire « Attention, je ne vais pas m'installer le vendredi pour attaquer le lundi. Je m'installerai le lundi matin. » Voilà, c'est tout.
Est-ce que ça concerne les, les paysagistes qui viennent, par exemple, rue du 8 mai et qui se sont installés cette semaine, la semaine dernière, qui se sont installés pendant pratiquement une journée, qui étaient avec deux camions sur le trottoir, entre la boulangerie, enfin l'immeuble, ils ont taillé, ils sont restés là toute la journée. Est-ce que ça rentre en ligne de compte?
Alors oui, parce que ça devient du travail sur la voie publique. C'est pas le gars qui va mettre sa camionnette, etc. Par contre, le souci, c'est est-ce qu'ils ont, ils sont déclarés en mairie pour occuper le domaine public, c'est tout.
Est-ce qu'il y a eu la demande? Bon, si elle n'y a pas lieu, est-ce que là, notre police municipale doit pouvoir demander à contrôler, simplement ça.
Mais les arrêtés sont faits par la police.
C'était quand même un peu problématique la semaine dernière. Pendant la journée, ils ont laissé deux camions dessus, vraiment garés sur le trottoir. Donc les gens étaient obligés de descendre, passer en face éventuelle ou aller sur le... Alors, sachant que tout de suite après la temporelle, ça roule des fois un peu vite. C'était la question de savoir si la police municipale doit jouer ce rôle et où.
Mais la police municipale joue ce rôle puisque c'est elle qui délivre les arrêtés d'occupation du domaine public. Par contre, s'ils n'ont pas demandé, la police peut verbaliser.
Voilà, parce qu'il n'y avait rien d'affiché.
Moi, j'ai vu par exemple pendant tout le mois d'août devant les Fresnes deux camions du toit forisien qui refaisaient des bordures, qui se sont garés sur le trottoir, sur le passage piéton, à la hauteur des ralentisseurs. Je l'ai signalé plusieurs fois à la police. Je ne pense pas qu'on ait eu de demande d'arrêté municipal. Voilà.
Juste une question, ça concerne aussi les déménagements, les camions de déménagement.
Bien sûr.
Comment c'est le déménageur qui fait la démarche?
Bien sûr.
La personne qui déménage?
Non. C'est le prestataire qui doit faire une déclaration préalable et demander un arrêté. C'est pas au client à dire j'aurai des déménageurs vendredi, je vais aller voir le maire. C'est à eux de faire le travail.
D'accord.
Mais c'est vrai pour des livraisons de béton, de matériaux, etc.
Parce que je pense que ce genre de réglementation, le quidam lambda, il n'est pas du tout au courant de ça.
Mais le quidam lambda, il n'a pas à être au courant puisque ce n'est pas à lui de le faire.
D'accord.
Par contre, l'entreprise qui doit le faire, elle a intérêt à être au courant. Est-ce que c'est bon pour ces barèmes? Alors, on va dire qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, ils sont adaptés à l'unanimité. Ensuite, on le fait en deux temps. Il y a le tarif de location des salles. Alors, ne me demandez pas quel est le pourcentage d'actualisation. Il n'y en a pas. Ça va de 3% à 27%. Pourquoi? Parce qu'en définitive, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, raisonnons d'abord sur des masses euros réaliste, parce que des 47 euros quelque chose, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et puis, tout augmente, y compris l'électricité, l'eau, le chauffage. Et garder, je pense par exemple à l'atelier, à 47 euros la demi-journée, ça me semblait pas très réaliste. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que justement, on propose de passer de 47 à 60 et ça fait 27% effectivement. Mais pour des copropriétés qui tiennent des assemblées générales et qui, de toute façon, refacturent aux copropriétaires, je vois pas bien ce que ça va changer. Voilà. Donc, je vais vous dire les chiffres. Ce sera peut-être un petit peu plus long, mais c'est pas grave. En ce qui concerne la première ligne, donc pour les associations, pour le NEC, la première fois, c'est gratuit. Et on vous propose de passer de 350 à 390 euros. Pour l'espace loisir, de 257 à 280 euros. Les autres structures sont gratuites pour les associations. Pour les associations extérieures, pour le NEC, on passe de 466 à 500 euros. L'espace loisir, de 385 à 400. Et la Villa Saint-Michel, de 385 à 400. Vous voyez, c'est quand même pas des tarifs qui sont prohibitifs, hein. Pour les entreprises de Saint-Prier, pour le NEC, on passe également de 466 à 500. L'espace loisir et la Villa Saint-Michel gratuit la première fois. Et après, on passe de 385 à 400. et pour la Villa Saint-Michel de 350 à 370. Pour l'atelier et le grain d'orge, on passe de 152 à 170. Alors on vous a mis deux petits points qui signifient que pour l'atelier et le grain d'orge, le demandeur doit habiter la commune et les entreprises de Saint-Prié, la première location est gratuite. Je m'interroge quand même sur la pratique de certaines entreprises qui font la réunion en début d'année de leur personnel, qui payait 47 euros, mais comme c'était la première fois de l'année, ils ne payaient pas. Donc cette notion de première fois, elle s'entend à l'année. Il y a quelques entreprises qui ont très bien compris comment ça marchait. Mais bon, c'est une règle, on ne peut pas l'apprécier en fonction des interlocuteurs. Donc pour les entreprises extérieures, pour le NEC, on passe de 1166 à 1200 euros. C'est là qu'on n'a que 3%. L'espace loisir de 933 à 1000 euros et la Villa Saint-Michel de 466 à 500 euros. Bon, les causes humanitaires et actions caritatives, c'est au cas par cas, mais c'est généralement de la gratuité. Pour ce qui est des réunions de copropriété, Saint-Prié-en-Gerais, vin d'honneur, mariage, obsèques, je dis bien obsèques parce que c'est la première année qu'on l'a intégré, pour des habitants de Saint-Prié-en-Gerais ou agents communaux, donc il n'y a pas le NEC, il n'y a pas l'espace loisir. Pour la Villa Saint-Michel, on passe de 175 à 200. Pour le Clos Bayard, de 175 à 200, mais sans qu'il y ait la possibilité d'obsèques. Pour l'atelier et le grain d'orge, de 47 à 60 euros. C'est là qu'on augmente de 27%. Alors cette option d'obsèques, on en avait parlé. Est-ce qu'on peut louer une salle pour faire une cérémonie funéraire, donc laïque, avant la crémation ou l'inhumation? Eh bien oui, c'est autorisé sur décision du maire. Et donc on a fait une cérémonie cette année, au mois de novembre, à la Villa Saint-Michel. Pour ce qui est des vins d'honneur, mariage et extérieur, il n'y a que la Villa Saint-Michel qui est concernée, donc on passe de 291 à 320 euros. Et pour la réception, repas, anniversaire pour les habitants de Saint-Prié ou agents communaux, on passe pour la Villa Saint-Michel de 210 à 240 euros, pour l'atelier de 117 à 130 euros et pour le grain d'orge de 117 à 130 euros. Les cautions donc, sont de 2000 euros pour le NEC, l'espace loisir, la Villa Saint-Michel, c'est 1000 euros. Le Clos Bayard, c'est 500, l'atelier, c'est 1000 et le grain d'orge, c'est également 1000. Et puis les pénalités en cas de déclenchement de l'alarme et d'intervention de Madet, moi j'aurais aimé mettre un forfait de 50 euros. Mais on a mis la tarification réelle de Madet parce que, en cas d'intervention de Madet, on leur demande de facturer au nom de la personne qui a occupé la salle. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas une actualisation qui est spectaculaire. Si on raisonne sur les pourcentages, oui, il y en a certains qui sont très importants. Mais il me semble quand même que sur les salles qu'on met à disposition et ce qu'on en demande en contrepartie financière, on est très, très raisonnable. La preuve en est peut-être les demandes qu'on a. Après, il faudra s'interroger, bien sûr. Le grain d'orge, c'est généralement réservé par des occupants de l'immeuble. L'atelier est très sollicité. La Villa Saint-Michel le sera peut-être un peu plus. Et puis, on en parlera dans les débuts de 2023. Parce qu'il faut à la fois qu'on optimise la location de la Villa Saint-Michel et qu'on optimise son occupation, peut-être par d'autres structures, très rapidement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs proposés? Oui, Hubert.
Hubert Blanchard, donc moi il y a une chose qui m'interpelle, je vois la première fois gratuite. Mais comme tu disais tout à l'heure, les entreprises qui font leur NCE au mois de janvier. Et s'ils le font toutes les années, c'est toujours la même chose, c'est toujours gratuit. Moi, je pense qu'on fera une première fois gratuite, puis après, l'année suivante, eh ben, on leur fera.
Oui, alors, j'y ai pensé. Le problème, c'est que si c'est une première fois gratuite, il y a 7 ou 8 ans, par exemple, une entreprise qui a fêté ses 10 ans et qui fête ses 20 ans après, on ne va pas remonter 10 ans en arrière pour savoir si elle a eu la gratuité 10 ans avant. Voilà. Mais on est à la marge. De toute façon, c'est quelques entreprises qui ont bien compris la mécanique. Bon, de toute façon, le cas que je citais, c'était l'atelier. Et peut-être que dans quelques temps, ils n'auront plus la possibilité d'avoir l'atelier. Quoi. Okay. Merci. D'autres questions? Des interrogations? Donc on va passer au vote. Qui est contre ces nouveaux tarifs pour les mises à disposition de salles? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on les valide à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant.
Le point suivant est encore un point de comptabilité, c'est la tenue de l'inventaire. Donc vous savez que chaque fois qu'on achète effectivement du matériel ou un bien immobilier qui est payé en investissement, on l'inscrit à l'inventaire. Or cet inventaire, on doit tenir à jour en fonction de la date d'amortissement et surtout quand il y a des cessions, que ce soit de terrain ou des cessions de matériel. Donc je ne vais pas vous donner toute la liste. Hein, vous voyez qu'on a effectivement vendu des choses. Hein, donc on a vendu des terrains. On a vendu le terrain rue Léo-Lagrange. C'était la régularisation des places de parking, non, c'est ça? Oui. Voilà, les ventes de terrain pour une vente de parking. On a vendu aussi à Madet la partie haute de l'espace loisir de la Bargette, puisque leur bureau était à côté et qu'ils souhaitaient s'étendre. Après, on a vendu un poste à souder, on a vendu un ordinateur, on a vendu... après, c'est toutes des petites sommes qu'on vend, vous savez, sur Internet. C'est beaucoup le matériel de cuisine qu'on avait à la Villa Saint-Michel, des rayonnages de chambres froides, une sauteuse à gaz, voilà. Et donc, à chaque fois, vous trouvez la somme qu'on a encaissée, la somme à laquelle elle était inscrite au niveau de l'inventaire. Alors, soit on a une plus-value de cession, hein, c'est-à-dire, par exemple, on a encaissé pour le terrain 9 500 €. Il était dans notre inventaire estimé à la somme de 3 572,18 €. On voit qu'on a fait une plus-value de 5 927,82 €. Voilà, et ça fonctionne ensuite comme ça pour tout. Pour les cessions, bien entendu, de terrain, en principe, on a une plus-value. Par exemple, pour le poste à souder, ben, il était sorti de l'inventaire, hein, puisque en fait, il était ancien, mais il fonctionnait toujours. On a réussi à le vendre à 240 €. Ben, ça nous fait 240 € de plus-value. Et ainsi de suite pour toutes les petites pièces qui ont été vendues au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, pour ça, ça fait une somme totale de 47 363,17 €. Alors par des jeux d'écriture, on est obligé de les sortir de l'inventaire, donc de les considérer en dépenses. Puis ensuite, on encaisse la recette, donc c'est toujours en double partie. C'est pour ça que vous retrouvez la même somme en dépenses et en recettes pour la somme de 47 000. Et par contre, les recettes dégagées, on est qu'à 46 045, parce que je pense qu'il faut enlever les 1318. Alors pourquoi, je ne sais plus, parce que ça doit être une moins-value. Je pense que quelque part, on doit dû avoir une moins-value. Donc voilà. Et puis il y a une petite somme pour lorsque on enlève quelque chose de l'inventaire qu'on ne vend pas parce qu'il est cassé ou tout. Donc là, ça donne pas du tout lieu à des écritures, donc on n'a pas de somme à mettre. On l'enlève simplement de l'inventaire, ce qui a été le cas pour deux tabourets à la crèche qui valaient 135,56 €. Visiblement, ils étaient cassés, donc on les a simplement sortis de l'inventaire. Voilà. Et ça, on est obligé de le faire toutes les années pour mettre effectivement, en fonction des sessions, notre inventaire à jour. Ou en fonction du fait qu'il est abîmé ou qu'il est réformé ou que voilà qu'il ne fonctionne plus.
Donc c'est sorti d'inventaire pour cession ou destruction. Des questions par rapport à ça? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On valide ces mouvements d'inventaire à l'unanimité. Le point numéro 12. Dans le cadre de la politique de sécurité, de prévention de la délinquance et d'amélioration de la tranquillité publique, la commune poursuit le développement de ses installations de vidéoprotection en coopération avec les services chargés de la sécurité publique. On a déjà parlé donc à plusieurs reprises. Pour rappel, les objectifs de ces dispositifs de vidéoprotection sont de dissuader le passage à l'acte délinquant, améliorer le sentiment de sécurité des habitants, servir le travail d'enquête, permettre une intervention des forces de l'ordre adaptée à la situation et faciliter l'administration de la preuve en justice par les services de police. La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite accompagner financièrement les communes qui investissent dans les équipements permettant de répondre aux besoins de sécurité exprimée par les habitants et elle soutient le développement de la vidéoprotection permettant la sécurisation des espaces publics, la sécurisation des abords des gares routières et ferroviaires, la sécurisation des abords des lycées. L'aide concerne l'acquisition, l'installation et le raccordement de caméras jusqu'aux équipements de restitution et de traitement des images et la création d'un centre de supervision urbain, ce qu'on appelle un CSU. À cet effet, la commune a souhaité compléter et moderniser son système de vidéoprotection actuel et un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confié à la société Technoman. Au regard du montant total du projet, estimé à 343 605 euros hors taxe, il a été décidé de le décomposer en trois phases sur les exercices budgétaires 2023, 2024 et 2025. La phase 1, qui devrait être réalisée en 2023, est estimée à 178 038 euros hors taxe, donc 85 835 euros hors taxe pour le centre de supervision urbain. Dans le cadre de l'intervention régionale pour la sécurité des Auvergnats et des Rhônes-Alpins, ces dépenses peuvent être subventionnées à hauteur de 50% pour le centre de supervision urbain et 15 000 euros hors taxes par caméra, la subvention étant plafonnée à 50 000 euros par an et par commune. Le budget prévisionnel de la tranche 1 est donc le suivant. Montant total de l'opération, 178 000 38 euros hors taxes. Financement par la région, 94 569, soit 42 618 euros pour le centre de supervision urbain et 51 951 pour les caméras. Financement de la commune, 83 469 euros. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le projet d'extension du système de vidéoprotection qui lui a été présenté, son coût et son phasage, de m'autoriser à solliciter auprès de la région une demande de subvention estimée à 94 569 euros pour financer la création d'un CSU et des installations de vidéoprotection et de m'autoriser à signer tous les documents s'y rapportant. Donc on en avait déjà parlé par le passé. On va le faire en trois lots, en trois exercices. D'une part, parce qu'on ne peut pas investir en 2023 l'intégralité de notre reste à charge. Et puis, pour bien voir comment on va développer, si vous voulez, ce phasage, je vous rappelle que le principe, en accord avec la police nationale, c'est d'installer des caméras sur l'ensemble des lieux d'accès ou de sortie de notre commune. Que ce soit des caméras fixes à haute définition ou des caméras mobiles à 180 ou 360 degrés. On peut avoir d'ailleurs sur le même site les deux types de caméras. Voilà. Donc on commence par un premier lot, bien évidemment dans lequel on intègre le centre de supervision urbain qui devrait être installé au poste de police municipale. On a un local qui pourrait s'y prêter. Alors pourquoi on vous demande simplement dans un premier temps de pouvoir formuler une demande de subvention auprès de la région, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vous proposer, par exemple dans les dépenses urgentes, d'investir tant qu'on n'aura pas la certitude du montant de la subvention que pourra nous accorder la région. Bon, on l'aura, mais vu le contexte, peut-être avec un peu de retard. Des questions par rapport à ça ? Bon, simplement la matérialisation de ce qu'on a pu vous présenter en termes de projet, donc on l'a fait en trois phases, et puis bien évidemment les deux autres phases seraient moins importantes en termes de coûts, puisqu'il n'y aurait pas le CSU. Des questions ? Antoine, des précisions ? Prends un micro.
Nous allons mettre en place 37 caméras qui seront situées sur 27 sites, je crois. Actuellement, nous avons 6 caméras, ce qui nous fera un total de 43 caméras. On commence par la phase 1, qui correspond à peu près au centre-bourg, le centre le plus névralgique. De toute façon, il faut qu'il soit en concordance avec le CSU. C'est pour ça qu'on commence par là. Et ces caméras seront positionnées sur toute la périphérie de Saint-Priest-en-Jarez. Ce sera peut-être évolutif par la suite. Elles protégeront principalement les bâtiments publics, bien sûr, les lycées, les city-stades et les voies à grande circulation comme la route de l'Étra, l'avenue Pierre-Mendès-France, l'avenue Albert-Raymond. Les ronds-points du Ratarieux, le rond-point de la Stasse et le rond-point de la Fouillouse, là-bas. Des Trois Glorieuses. Alors, on a quatre types de caméras. Une caméra à vision restreinte pour filmer uniquement les plaques. Une caméra à une plus large vision qui permettra de filmer les véhicules et les plaques. Des caméras multi-objectifs, c'est-à-dire qu'une caméra pourra comporter quatre caméras. Et une caméra dôme à 360 degrés aussi.
Il y a un autre avantage de procéder sur 3 ans. Donc, on a bien évidemment chiffré l'ensemble du déploiement des caméras, comme vient de le rappeler Antoine, et puis leur lieu d'implantation théorique. Mais au fur et à mesure de ce déploiement, il faudra qu'on s'interroge. Je prends 2 exemples auxquels j'étais confronté récemment. On n'a pas prévu pour l'instant au Bois-Monzil pour des problèmes de réseau. Et puis, bien sûr, d'interconnexion avec le CSU. On n'en a pas prévu non plus au CRE. Peut-être que sur la phase 3, en fonction de l'évolution et puis du partenariat financier qu'on aura avec la région. Et puis, en fait, les budgets, ce sont des budgets. Peut-être qu'en définitive, quand les marchés seront lancés, le prix des caméras ou des installations seront moindres. On va essayer de faire un certain nombre de travaux de voirie en propre. On pourra quand même dire, tout compte fait, il en manque une à tel endroit ou à tel endroit. Le Bois-Monzil, ça va me sembler in fine intéressant parce que malgré le sens unique qui n'est pas respecté, il y a encore beaucoup de vitesse. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent le sens interdit. Et puis, le CRE, on a encore vu ce matin avec Antoine, on a eu déjà des dégradations, vous le savez bien, mais on a encore des dégradations sur la périphérie du CRE de personnes, on va dire, qui jettent des cailloux dans les maisons et ça casse les panneaux solaires ou des choses comme ça. Des jeunes qui s'amusent, hein, il faut bien qu'ils se défoulent, c'est marrant. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de pouvoir s'adapter. On a un projet, on vous l'a présenté, on a un plan de déploiement. Mais on n'exclut pas non plus de pouvoir dire ou bien telle caméra, on la mettait là, mais ça ne sert à rien. Ou alors, on va en rajouter une ou deux. Et puis, vous le savez très bien, ce n'est pas le prix de la caméra qui pèse, mais bien toute la liaison faisceau. D'autres questions par rapport à cette première étape? Donc là, on est dans une logique simplement de demander à la région la subvention. Et c'est à réception de la validation de cette subvention qu'on lancera le marché et les travaux. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry. Et là aussi, c'est une demande de subvention. La dotation de soutien à l'investissement local, ce qu'on appelle la DSIL, est une aide de l'État à l'investissement des collectivités territoriales en faveur de l'équipement et du développement du territoire. Issue de la pérennisation en 2018 du Fonds de soutien à l'investissement public local, la dotation de soutien à l'investissement local est désormais inscrite au Code général des collectivités territoriales. Les subventions du DSIL sont attribuées par le préfet de région sur proposition du préfet du département. L'attribution de cette dotation s'effectue sous la forme d'une subvention dont le taux d'intervention varie selon le type d'opération. Pour être éligible, le projet doit s'inscrire dans les familles d'opérations fixées par la loi et relevant notamment des thématiques suivantes. Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, création et transformation et rénovation des bâtiments scolaires. Pour rappel, en 2022, la première grande priorité thématique retenue pour les opérations éligibles, était le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique, pardon, le développement des énergies renouvelables et les travaux suivants. Travaux de rénovation thermique et développement d'énergies renouvelables, recyclage et optimisation du foncier disponible, projet de renaturation ou atténuation des effets des canicules, travaux réalisés sur les bâtiments publics visant à diminuer leur consommation énergétique, travaux d'isolation des bâtiments ou modernisation des équipements par des énergies renouvelables et des outils de maîtrise et de pilotage de la consommation. À ce jour, même si le guide des appels à projets 2023 n'est pas encore disponible sur le site de la préfecture, la commune souhaite néanmoins déposer un dossier au titre de la DSIL 2023 pour son projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry. En effet, dans le cadre de son projet d'aménagement du centre-bourg et au regard de la baisse d'effectifs dans ces trois groupes scolaires, la commune souhaite anticiper la fermeture malheureusement prévisible d'une de ces écoles, en l'occurrence Georges Sand. Pour cela, Jean Massé, c'est Georges Sand après, c'est Jean Massé. Pour cela, la municipalité a prévu dans son plan de mandat et son programme pluriannuel d'investissement une extension et une réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et l'intégration de locaux de la petite enfance. Les travaux devraient démarrer début 2023 et la livraison est prévue pour le dernier trimestre 2024. Le coût prévisionnel du projet est estimé à ce jour à 3 958 350 euros hors taxes. Même si les grandes priorités thématiques pour la DSIL 2023 ne sont pas encore connues, le projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et l'intégration de locaux de petite enfance devraient être éligibles à cette subvention d'État puisqu'il prévoit des travaux de rénovation thermique et d'isolation, le développement d'énergie renouvelable avec la mise en place de la géothermie, une diminution de la consommation énergétique puisque le groupe scolaire dans son intégralité et les nouveaux locaux petite enfance deviendront des bâtiments passifs. La géothermie, c'est une décision récente qu'on a validée il y a 10 jours. Il est en effet rappelé que le projet sera labellisé Passive House. Ce label allemand garantit des performances énergétiques supérieures à la réglementation RT 2020. Il permet de certifier des bâtiments passifs qui consomment très peu d'énergie et qui peuvent se passer de systèmes de chauffage conventionnels, notamment grâce à l'utilisation de la chaleur solaire, un bon vitrage, une parfaite isolation, la maîtrise des ponts thermiques, mais aussi un système de ventilation très performant. Le plan de financement prévisionnel pour cette opération est le suivant. Maîtrise d'œuvre, 351 073 euros. Les travaux, 3 370 300 euros. Les missions annexes, 19 646 euros. Diagnostic, 9 875 euros. Éclairage ciel 14 272 euros, études géotechniques 2 902 euros, labellisation 15 000 euros, équipements divers et publications 49 180 euros, donc soit un total de 3 832 248 euros. Il y a un petit écart avec le montant qui est au-dessus, mais je ne sais pas trop d'où il provient, parce que les chiffres effectifs sont bien de ce montant-là, 3 832 247. On a eu tellement de documents actualisés que, entre les prévisions et les dépenses actualisées, il peut y avoir des écarts. En recette, on a prévu donc 766 450 euros de la région dans le contrat région-métropole. L'État de DETR et DSIL, 689 805 euros. Le fonds de concours SEM, pour la moitié du reste à charge, 1 187 997 euros. Et la commune de Saint-Priest, il reste à charge 1 187 997 euros. Nous serons maîtres d'ouvrage de cette opération et il vous est demandé de solliciter pour ce projet une aide financière auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, et de m'autoriser à déposer et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Avez-vous des questions ? Je vous disais qu'on a validé il y a 10 jours le fait en chauffage complémentaire d'appoint de passer en géothermie, puisqu'au départ il était prévu une petite chaudière à gaz, donc il y a un surcoût bien évidemment, mais qui devrait nous apporter d'une part plus de confort et surtout être totalement dans la démarche de développement durable. Maintenant, d'un point de vue administratif, je ne sais pas exactement où on en est, je crois que les permis de construire sont déposés. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, toute la démarche administrative est engagée parce qu'après, il faut... C'est mon rappel pour prendre ma pilule. Donc, les démarches administratives sont engagées. Le problème, c'est qu'après, on a discuté, on va revoir l'architecte très prochainement, c'est sur le timing. Parce que début des travaux, vous voyez bien que entre les délais pour lancer les marchés, consulter les entreprises, s'assurer que tous les lots seront couverts par des entreprises, on est sans doute déjà aux alentours du printemps, des vacances d'avril. Alors bien sûr, leur rôle, c'est d'optimiser les périodes de vacances scolaires. Mais bon, 2024, on y sera très rapidement. Et ça, c'est le passive house. Et donc, la problématique, indépendamment, vous l'avez vu, de l'évolution des coûts, c'est qu'on puisse se positionner par rapport à ce calendrier d'un point de vue organisationnel, mais également en relation avec l'inspection académique qu'on va essayer de rencontrer à nouveau très vite. Parce que quand on a une visibilité sur la date à peu près certaine de livraison, parce que transférer l'école Jean Massé, alors on, je ne sais pas si on aura encore 6 classes ou l'équivalent de 6 classes à ce moment-là, mais on continue à avoir des effectifs en baisse, puisqu'au dernier recensement, on a 26 élèves qui sortent de CM2 à Jean Massé pour théoriquement rentrer en petite section. Donc c'est tous les enfants qui sont nés en 2020 et qui sont sur ce secteur-là, ils sont 9. Donc vous voyez que là encore, 26 sorties et 9 entrées. Alors après, il y aura d'autres mouvements. Les sorties, elles sont quasiment certaines. Les entrées, j'espère qu'il y en aura davantage. Mais on est toujours dans cette problématique. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir de la visibilité pour mieux s'organiser et ne pas dire aux parents n'importe quoi. C'est sûr que de faire une rentrée globale en septembre, ça serait l'idéal. Après, si jamais on devait décaler, il faut que nous, on sache comment le faire dans de bonnes conditions.
Corinne Mourgue, juste la géothermie, elle entraîne une étude des sols supplémentaires ou non?
Alors, initialement, ce qui nous a été annoncé dans les options, c'était un surcoût de 40 000 euros. Alors, c'est de la géothermie profonde. C'est... Pour les gens qui font de l'écologie, c'est du nucléaire. Et oui, parce que c'est le noyau de la Terre qui chauffe l'eau. Donc le noyau de la Terre, c'est du nucléaire. Non, il y a un surcoût, mais qui nous a semblé intéressant à intégrer par rapport aux enjeux. Franchement, dire on fait tout ça, mais on a une petite chaudière à gaz, où on est sur de la géothermie vraiment très active, et puis même en coût, je ne suis pas un technicien, mais en coût d'entretien et de maintenance, c'est vraiment, on s'y retrouve très très rapidement.
Ah bah oui, je comprends bien.
Merci. En passif hausse, on va passer de... Alors, le problème des dépenses, c'est des dépenses valeur 2019. On n'a pas les chiffres récents, mais on va économiser en frais de fonctionnement au moins 40 000 euros avec cette opération annuellement. Et le fait de faire la géothermie, ben, on n'aura que des dépenses d'entretien des pompes, qui sont des très petites pompes. Sinon, il n'y aura pas de frais... Il n'y aura aucun frais de chauffage, aucun carburant. On sera autonome. Voilà.
La géothermie, elle est couplée aux panneaux solaires, du coup?
Non, il n'y a pas besoin. Les apports solaires dont parlait Christian, c'est des apports solaires au travers du vitrage qui sont gérés pour utiliser un maximum d'apports solaires côté sud. Et le principe de la géothermie, c'est, on ne va pas chez les Chinois, on descend sur 130 mètres à 5 mètres du bâtiment, on fait 8 mètres à l'horizontale et on remonte sur 130 à 150 mètres à l'horizontale. Et on fait une boucle. Et donc, cette boucle, on va chauffer de l'eau qui est en circuit fermé. C'est pas de l'eau... on a un volume d'eau, c'est toujours le même. Les pompes sont faites parce que par gravité, la pression de la colonne d'eau de 130 mètres de hauteur, elle aide à remonter l'eau, n'est-ce pas, Hubert, de l'autre côté. Donc, voilà. Et après, c'est une pompe eau-eau, c'est-à-dire qu'on prend les calories qui viennent de la terre et on les met dans le circuit de chauffage. Et on rebalance de l'eau froide pour aller la réchauffer. Et le système est inversible, mais peut-être pas partout, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas utiliser ça comme climatisation. C'est à l'étude actuellement.
D'autres questions? Donc, je vous demande donc de bien nous autoriser à faire une demande de subvention pour ce projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide à l'unanimité la demande de subvention auprès de l'État. Je vous en remercie. Le point 14, en fait, il va tout à fait s'intégrer dans ce qu'on vient d'évoquer. Puisqu'il s'agit de l'autorisation de déposer et de signer des permis de construire pour la restructuration, la rénovation et l'extension des écoles élémentaires et maternelles du groupe Jules Ferry. Le code de l'urbanisme n'inclut pas de disposition spécifique selon laquelle le maire devrait être spécialement habilité par une délibération du conseil municipal pour signer avant l'instruction la demande de permis de construire relative à un bâtiment communal. Le code de l'urbanisme précise que la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. Les communes sont tenues au même titre que toutes les personnes publiques et privées de se soumettre à la législation sur le permis de construire. Bien que le Code général des collectivités territoriales dispose, en son article L. 2122-21, que le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier de conserver et d'administrer les propriétés de la commune, d'ordonnancer les dépenses et de diriger les travaux communaux, ce même article ne donne pas délégation générale au maire pour déposer et signer les demandes de permis de construire de la commune. Il est donc nécessaire de délibérer chaque fois qu'une nouvelle demande de permis de construire doit être déposée. Donc Il est donc demandé au conseil municipal de m'autoriser à déposer et de signer les demandes de permis de construire relatives à la restructuration, la rénovation et l'extension des écoles élémentaires et maternelles Jules Ferry. Donc, le but, c'est que vous m'autorisiez à déposer un permis de construire, qu'ensuite, nous, côté mairie, on va instruire. Mais c'est comme ça. En accord avec Saint-Étienne Métropole, surtout. Voilà, c'est une démarche administrative, donc... Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc, à l'unanimité, vous m'autorisez à demander le permis de construire. On va passer maintenant à la partie concernant la gestion du personnel. Par la proposition d'une convention avec le Centre de gestion de la Loire pour la mise en œuvre du dispositif de signalement dans le cas d'atteinte volontaire à l'intégrité physique avec de violence, harcèlement et tout fait de délits physiques qui en découlent. L'objet, c'est la délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le Centre de gestion de la Loire, qui est notre interlocuteur en termes de gestion de personnel, pour la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement d'atteinte volontaire à l'intégrité physique des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d'agissements sexistes, de menaces ou d'actes d'intimidation. Je vous rappelle que, vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L135-6 et L452-43, le décret 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, l'arrêté du président du Centre de gestion de la Loire du 16 septembre 2022 définissant le dispositif de signalement mis en œuvre pour les agents du Centre de gestion de la Loire et les collectivités établissements délégants, et l'information au comité technique, le nôtre, sur la procédure relative au dispositif de signalement en date du 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit, considérant que toute autorité territoriale, des collectivités territoriales et établissements publics a l'obligation de mettre en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Considérant que le Centre de gestion de la Loire a mis en place ce dispositif par arrêté du 16 septembre 2022 pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse. Considérant qu'il semble opportun, dans un souci d'indépendance et de confidentialité, de confier au Centre de gestion de la Loire la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, je vous demande de bien vouloir décider de conventionner avec le Centre de gestion de la Loire et de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à cette convention. Que la mise en œuvre du dispositif de signalement d'atteinte volontaire à l'intégrité physique des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste, de menace ou d'actes d'intimidation est confiée au Centre de gestion de la Loire dans les conditions définies par arrêté de son président et d'informer l'ensemble des agents de la collectivité par tout moyen de la mise en œuvre du dit dispositif. Donc le principe est suivant, c'est que pour gérer les situations qui sont évoquées, au lieu que ça se fasse en interne au niveau de la mairie, eh bien ça se fera au niveau du centre de gestion, ce qui apporte quand même beaucoup plus de souplesse de la part d'un agent dans le fait de pouvoir, si vous voulez, évoquer ou signaler une situation sanctionnable. On a présenté ce projet de convention en comité technique. Il a été bien évidemment validé par l'ensemble des membres de ce comité. Donc, on vous demande simplement aujourd'hui de valider cette convention. Corinne Morgue.
Corinne Morgue, est-ce que cette démarche s'accompagne d'une formation ou s'est accompagnée dans le passé d'une formation à la prévention du harcèlement physique, sexuel ?
Non. En fait, c'est simplement une obligation légale. On se tourne vers le centre de gestion puisqu'on est obligé de passer par lui pour un certain nombre de problématiques liées au RH. On a déjà au centre de gestion un référent déontologique. Et c'est simplement de dire aux agents, si vous êtes confronté à ce genre de situation ou si vous pensez être victime de ce genre d'acte, eh bien, vous avez la référence au niveau du centre de gestion. Voilà. Après, ça sera à eux aussi d'apprécier l'authenticité ou la véracité de cette situation.
Il existe des formations très intéressantes sur le sujet, au moins pour qualifier les actes, parce que on sait que parfois certaines personnes ne mettent pas des mots derrière des actes et relèvent du harcèlement moral, par exemple, et n'ont pas été formées pour ne pas le faire, quoi.
Alors, on n'a pas forcément au niveau du centre de gestion ce type de formation pour les collectivités territoriales de notre nature. Hein. Après, c'est simplement une obligation de répondre à une obligation légale qu'on met en place rapidement. Parce que moi, je suis là comme maintenant, en 2014, je n'ai pas eu de remontée, justement, de ce genre de situation. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui en sont victimes. Parce que ça peut être aussi des personnels qui sont exposés par rapport aux tiers. Hein. Des personnes des écoles qui sont agressées ou insultées par des parents ou des choses comme ça. C'est pas simplement en interne au niveau du personnel. C'est toute personne communale qui peut être exposée à ce genre de situation.
C'est très bien qu'un dispositif externe, pour le coup, existe sur le sujet parce qu'effectivement, ça permet de libérer la parole.
Et de façon beaucoup plus neutre, puisque ça ne sera pas au sein même de la mairie. D'autres questions ? Donc, qui est contre ce dispositif, cette convention, qui s'abstient, qui est pour. Donc, nous signerons la convention avec le centre de gestion et je vous en remercie. Très longue cette convention. Enfin, le point 16 concerne un forfait mobilité durable et des modalités d'attribution. Afin d'encourager le recours à des modes de transport plus doux, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit l'article L3661-1 du Code du travail la possibilité pour les agents publics qui font le choix d'un mode de transport alternatif et durable, vélo, covoiturage, de bénéficier d'une participation annuelle de leur employeur dont le montant est fixé par arrêté. Le décret 2020-1547 du 9 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 9 mai 2020 précise les modalités d'application aux agents de la fonction publique territoriale. Ainsi, ces derniers peuvent désormais bénéficier d'un forfait annuel de 200 euros à la condition d'attester sur l'honneur de l'utilisation de l'un ou l'autre de ces modes de déplacement à raison d'au minimum 100 jours par an. En application de l'article 1 du décret 2020-1547, les modalités d'octroi du forfait mobilité durable doivent être définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Tous les agents de la fonction publique, titulaires ou contractuels, relevant de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 sont concernés, ainsi que les agents de droit privé recrutés par la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Sont par contre exclus ceux qui ont un logement de fonction sur leur lieu de travail, ceux qui ont un véhicule de fonction, ceux qui ont un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur travail, ainsi que ceux transportés gratuitement par la commune, ainsi que les agents vacataires. Sont expressément visés les déplacements effectués entre la résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail, avec un cycle ou cycle de pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Ce forfait exclusif de la prise en charge employeur imposée par le décret 2010-676 du 21 juin 2010, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ainsi, les agents qui souhaiteront bénéficier de ce forfait ne pourront pas bénéficier de la prise en charge de leur abonnement de transport en commun, même si les modes de déplacement éligibles au forfait mobilité durable ne sont pas utilisés toute l'année et plus de 100 jours par an. On ne pourra pas cumuler les deux. Les modalités d'octroi. Le forfait mobilité durable est versé en une seule fois en année N plus 1 sur production d'une attestation sur l'honneur de l'utilisation de l'un ou l'autre mode de déplacement autorisé pendant au moins 100 jours sur l'année civile. Le versement est annuel sous forme de forfait dont le montant est fixé à 200 euros. Cette attestation sur l'honneur doit être produite par l'agent auprès du service ressources humaines au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette somme n'est pas proratisée en fonction du temps de travail de l'agent. En revanche, le nombre de jours minimum requis pour en bénéficier est modulé selon la quotité du temps de travail de l'agent. Ainsi, un agent travaillant à 100% devra avoir utilisé à minima le mode de déplacement requis pendant 100 jours pour bénéficier du forfait de 200 euros. Un agent travaillant à 80% devra avoir utilisé ce même mode de déplacement pendant 80 jours pour bénéficier du même forfait. En revanche, le nombre minimal de jours et le montant du forfait sont modulés en cas d'entrée ou de sortie de l'agent pendant la période de référence ou encore lorsqu'il est placé dans une position autre que la position d'activité au cours de cette même période. La commune demandera un justificatif à ses agents pour le covoiturage et pourra effectuer des contrôles pour l'utilisation du vélo. Un relevé de facture si l'agent est passager ou de paiement si l'agent est conducteur d'une plateforme de covoiturage ou une attestation sur l'honneur du covoitureur en cas de covoiturage effectué en dehors des plateformes professionnelles, une attestation issue du registre de preuves de covoiturage. Comme les remboursements de transport, le forfait n'est pas soumis à cotisation et est non imposable. Je vous demande donc d'approuver le versement d'un forfait mobilité durable en application des dispositions prévues par le décret 2020-1547 susvisé à compter de l'exercice 2023 ainsi que les modalités de versement prévues ci-dessus. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc on a très peu, enfin on a essayé d'identifier le nombre de personnes qui pourraient être concernées, à notre connaissance, hein, bien évidemment, ça sera infime. Je crois qu'on est sur 3, 4 ou 5 agents qui pourraient, je dis bien qui pourraient, en bénéficier. Des questions? Donc ça aussi, on l'a évoqué en comité technique, et ça a bien évidemment été validé. Donc s'il n'y a pas de questions à passer au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc ce forfait est validé à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc on a fini l'ordre du jour du conseil municipal du mois de décembre. Je vais vous rappeler donc les dates et puis après, je vous soumettrai une question diverse. Les prochaines dates. Alors, il y a le Noël intergénérationnel mercredi et puis le Réveillon solidaire le 31. Donc, le 9 janvier 2023 à 19h au NEC, les vœux à la population. 9 janvier. Le 11 janvier 2023 à 17h ici, les vœux du personnel au maire et à son conseil municipal. À 17h. Je vais vous demander également de noter, et vous ne l'avez pas eu ça sur votre calendrier, c'est arrivé récemment, vous avez eu le calendrier hein, des conseils, hein, 20 février, 27 mars, 9 mai, 26 juin, 4 septembre, 6 novembre et 11 décembre, une réunion plénière qui aura lieu le lundi 16 janvier 2023, une plénière. Nous recevrons à 18h30 la société Atrium et à 19h30 la société Thomas qui nous présenteront des projets, des réflexions, des suggestions pour le terrain du lycée. Donc le 16 janvier, 18h30 et 19h30. Et puis également, le mardi 21 février, nous organiserons comme l'an dernier ce qu'on peut maintenant appeler les réunions Mounardes, c'est-à-dire une réunion avec l'ensemble de la population qui se substitue aux réunions de quartier, au cours de laquelle nous reviendrons sur nos dossiers de 2023. Donc il y aura bien évidemment Épora, Centre-Bourg, Jules Ferry, l'état d'avancement du dossier, le chemin des Bierces, j'espère qu'il sera bien avancé à ce moment-là. Et puis après, bon, on répondra bien évidemment aux questions des habitants qui voudront se déplacer. Au NEC à 19h. Février. 21 février, le mardi 21 février à 19h au NEC. De toute façon, vous aurez, hein, je vous le communique aujourd'hui, mais vous l'aurez dans l'agenda. Alors, la dernière question que je voulais vous soumettre en questions diverses, c'est la police, le pouvoir de police du maire en termes de règlement local de publicité intercommunale. On en a déjà parlé. C'est un courrier qu'on a reçu de Gilles Tizy, vice-président en charge de la cohésion territoriale et de la stratégie foncière à Saint-Étienne Métropole. La démarche d'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, RLPI. C'est toute la publicité extérieure hein, qu'on voit, enfin extérieure et mais également intérieure quand elle est lumineuse, devrait s'achever début 2023 par l'appropriation du projet en conseil métropolitain. L'approbation, pas l'appropriation, pardon. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions marquera le point de départ des délais réglementaires de mise en conformité des dispositifs, à savoir 2 ans pour les publicités et préenseignes, et 6 ans pour les enseignes. Dès lors, l'instruction des actes, autorisation et déclaration préalables relèvera de l'autorité en charge du pouvoir de police de la publicité, c'est-à-dire le maire. Monsieur Tizy nous dit « Je vous ai informé par courrier en date du 29 septembre 2022 des modifications apportées par la loi 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience », ayant pour effet le transfert du pouvoir de police au président de Saint-Étienne Métropole à compter du 1er janvier 2024, sauf opposition des communes exprimée dans les 6 mois suivants. Donc, théoriquement, au 1er janvier 2024, de droit, le président de la métropole aura le pouvoir de police, sauf si les communes s'y expriment dans les 6 mois qui suivent. Les communes qui s'opposeront au transfert automatique conserveront le pouvoir de police et l'instruction des actes. Dans cette hypothèse, Saint-Étienne Métropole n'exercera ses prérogatives, que sur le territoire des communes non opposées. Donc les communes qui s'opposent, elles resteront maîtres de leur pouvoir de police et les autres, ça sera la métropole. Toutefois, dès lors qu'au moins un maire ferait part de son opposition, donc voudrait garder son pouvoir de police, le président pourrait décider de renoncer au transfert pour l'ensemble des communes, Donc là, c'est plus le maire, c'est le président de la métropole qui dit, puisque vous, maire de telle commune, vous voulez garder le pouvoir de police, ben moi, j'en veux pas et tout le monde le garde. Dans ce second scénario, aucune prérogative ne serait alors exercée par Saint-Dié Métropole. Au regard de ces dispositions et afin de travailler à l'évaluation des moyens humains et financiers nécessaires à la constitution d'un service métropolitain, le cas échéant, je me permets de réitérer mon souhait de connaître votre position politique quant à une éventuelle opposition de votre part au transfert du pouvoir de police de la publicité au président de Saint-Dié Métropole. Je vous saurai gré de me faire un retour d'ici le 31 décembre. J'attire votre attention sur le fait que le bon exercice de la compétence RLPI, au vu de l'ambition de notre document arrêté, ne peut trouver sa force sans une application homogène sur notre territoire. Aussi, le bon niveau d'exercice du pouvoir de police semble être l'échelle métropolitaine. C'est donc le point de vue du vice-président en charge de ce dossier. Donc moi, ce que je vous demande, comment ? Oui, bah lui, après, il fait le travail. Hein. Il dit, bon, ben voilà, en 2024, est-ce qu'on transfère ou pas ? Et s'il y a un transfert, il faut constituer un service dédié. Il y est favorable, bien évidemment, pour que l'appréciation de l'application du RLPI soit homogène sur l'ensemble du territoire. Sachant que, de toute façon, si un maire s'y oppose, bon, enfin, une fois que ça rentrera en vigueur, on aura 6 mois pour se décider définitivement. Mais il a besoin, je le dis, d'avoir une idée à peu près de ce qui peut se passer. Sur les 53 communes, s'il y en a 52 qui disent on garde le pouvoir de police, il ne va pas se prendre la tête pour recruter. À l'inverse, s'il n'y en a que deux, il va dire peut-être qu'il faudrait quand même commencer à recruter et former des gens pour appliquer ce règlement. Donc je veux simplement savoir, par un vote, on va dire, votre ressenti, est-ce qu'on garde ce pouvoir de police ou est-ce qu'on le donne à la métropole ? Alors, le pouvoir de police, ça va être quoi ? Ça va être de dire... Quand il va y avoir une entreprise qui va se créer avec une enseigne, dire attention, vous devez appliquer tel et tel élément du règlement, pas plus d'un quart de la surface visible extérieure ou des choses comme ça. Et puis de dire, par exemple, les affiches, c'est du 4x3 et c'est plus du 6x8. C'est de dire attention, vous laissez votre magasin allumé la nuit, c'est interdit. Si ça se reproduit, vous serez verbalisé. Voilà, c'est un pouvoir de police d'application du règlement.
Marge locale.
Comment ?
Il n'y a pas de marge locale.
Non, il y a un règlement qui est métropolitain. Alors, on le mettra hors PV, mais il y a la marge locale, elle a été soulevée par des maires de petites communes rurales en disant on n'a plus le droit de mettre des affiches ou des signalements sur le bord de la route, ferme un tel à 2 km, vente des produits de la ferme, etc. Il dit, moi, si je retire ça, mes agriculteurs ils vont me tomber dessus. Alors, c'est sûr que ces maires-là vont dire, moi, je garde mon pouvoir de police, vraisemblablement.
Par rapport à la pub... Oui, pardon, excusez-moi. Si on garde ce pouvoir de police par rapport à la publicité, en fait, c'est essentiellement des embêtements. Avoir à aller trouver les entreprises, leur dire attention, vous n'éteignez pas, attention tout ci, attention tout ça, c'est que du souci finalement.
Aujourd'hui, on fait payer aux entreprises une taxe sur la publicité locale en fonction de la taille de leurs enseignes, etc.
Ah, oui. Donc,
les entreprises, on les connaît. Aller leur dire demain, il y a un nouveau règlement, il faut que vous réduisiez. Alors très concrètement, sur un mur, si vous avez 4 panneaux d'affichage, Giraudy ou autre, ben, il n'y en aura plus qu'un. Si vous avez 4 panneaux sur un terre-plein, il n'y en aura plus qu'un. Voilà, ça se fera automatiquement. Après, dans la relation avec l'entreprise qui fait de la pub, par exemple, vous savez, quand il y a des semaines promotionnelles, il y a des fanions qui mettent au bord des rues. Ça sera interdit, mais ça dépend en fonction de la nature de l'opération. Si c'est 100% commercial, ça sera interdit. Mais voilà. Bon, c'est peut-être pas plus mal que ça reste à l'appréciation du maire en fonction du contexte. Après, on pourra dire pourquoi c'est interdit à Villars et autorisé à Saint-Prié. Pourquoi vous ne mettez pas les illuminations dans la rue à Saint-Prié alors qu'il y en a plein à l'Étra? Oui, bien sûr, mais enfin bon. Voilà, moi personnellement, je serais plutôt favorable à garder le pouvoir au niveau de la commune.
Je suis également favorable dans ce sens. Voilà, je ne veux pas développer, mais.
Est-ce qu'on met au vote ?
Avec les emmerdes, on a l'autorité.
Si jamais on transfère ce pouvoir à Saint-Étienne Métropole, est-ce qu'à terme, il pourrait y avoir aussi un transfert de la taxe qu'on perçoit ?
Je pense pas que les deux soient liés. Le transfert de taxes, c'est des recettes. Alors après, il y a tellement de mouvements depuis quelques années entre les... Une partie, par exemple, vous savez bien, de la taxe foncière qui était départementale a été transférée à la commune. C'est pour ça qu'on est passé de 25 à 48%. Les gens ont cru qu'on avait augmenté. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de transferts de recettes fiscales.
Après, il va bien falloir que Métropole finance aussi le personnel qu'ils vont mettre. Et du coup,
oui, mais ce n'est pas forcément... De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce RLPI, et ça on l'avait évoqué en commission, c'est qu'on va perdre des recettes, ça c'est sûr, puisqu'on va réduire la quantité et la surface des publicités, ça c'est sûr. Mais dire à une entreprise, je pense en particulier à des banques ou des agences immobilières qui restent éclairées toute la nuit, vous avez l'obligation d'éteindre à partir du moment où vous fermez vos bureaux, ou tout commerce d'ailleurs, ne pourront rester allumés que ceux qui sont encore en activité, là on ne perçoit rien là-dessus. Et simplement un problème d'économie d'énergie, une nuisance nocturne. Bon. Moi, personnellement, je serais plutôt favorable à conserver le pouvoir. Mais après, là, c'est une question. Il nous dit, voilà, s'il y a les 53 communes qui disent on garde, c'est plié. Si après, il y a une discussion, on nous demandera vraiment notre avis dans les 6 mois qui suivront 2024. Là, c'est une première appréciation. Alors, qui... contre le fait que nous gardions le pouvoir de police. Alors, on le tournait comme ça.
Elle n'est pas claire, ta question.
Non. Alors, d'accord.
Qui veut garder alors.
Le pouvoir de police? Voilà, bah non, d'accord, on va le faire autrement. Qui est contre transférer le pouvoir de police à Métropole? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, ben voilà, l'unanimité, on gardera notre pouvoir de police. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui sont là pour le Noël intergénérationnel. Il y a un petit marché de Noël, je vous rappelle, à partir de 16h vendredi devant sur la plage Jean-Baptiste Père. Il y a un concert de Noël samedi soir à 20h à l'église. Il y a le réveillon solitaire et solidaire et puis les vœux à la population. C'est 14h, mais on verra bien qu'il n'y aura personne avant 16h, la sortie de l'école. Mais c'est 14h, effectivement. Merci à vous et bonne soirée.